Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, mesdames, messieurs, avec ce soir du beau monde, encore une fois, Marjorie Paillon nous fait l'amitié d'être là.
Alors vraiment, c'est parce que c'est vous. Je savais qu'il y avait trois personnes très bien en plateau, je me suis dit, allez, je vais.
Allez, je ne peux pas refuser. Ça fait plaisir, Marjorie, de t'accueillir. Tu es journaliste, bien sûr, et spécialisé dans la tech. À tes côtés, c'est Yves Maître. Salut Yves.
Bonsoir.
Operating partner Jolt Capital, consultant et ancien PDG de HTC. Yves qui a eu une longue carrière dans plein de boîtes passionnantes. Tu as travaillé notamment chez Orange, on le dit, on le répète à chaque fois. Évidemment, tu as toujours plein de petites histoires croustillantes à nous raconter. Il y en aura une tout à l'heure, tiens. Mais on garde le suspense.
Online ou offline?
Je ne sais pas, écoute. Alors après, c'est toi qui es responsable. Hein. Et Frédéric Simotel, salut Fred.
Bonsoir, salut à tous.
C'est sympa d'être là, Fred.
Oui.
Parce que je sais que normalement, tu aurait dû être dans les loges de Roland-Garros en train de siroter un drink avec des personnes importantes. Et bien, vous savez quoi ?
Regardez.
Fred Simotel a préféré être là ce soir dans Tech & Co avec nous pour commenter l'actu que de faire le beau à Roland-Garros.
Il préfère siroter du numérique avec nous.
Voilà, ça, exactement. Voir des échanges.
Il va y avoir un beau jeu de balle.
Ouais. C'est ça le professionnalisme,
faire des
amis.
40 A, des 30 A, ça va être mieux.
Le vrai professionnalisme, c'est ça.
ChatGPT, Gemini.
Tout ça, c'est tellement beau. Voilà. Qui va gagner en 5-7 ? On verra bien. Il y avait des beaux matchs ce soir, tiens, Roland Garros.
Oui, mais le quart de finale, Zverev contre De Notaire.
Ah ouais, bon, enfin, non, reste là. Hein. N'y va pas tout de suite, quand même.
Chaque année, il y a un nouveau Roland Garros.
Oui, c'est vrai. C'est
le quart de finale.
Effectivement. Alors, dans l'actu, les rumeurs WWDC dans un instant, pas mal de choses à raconter, bien évidemment. L'appli Gemini de Google, vous savez qu'il y a un peu la réponse de Google à ChatGPT. On va y revenir parce que ça arrive en France, ça y est, enfin. Et puis de l'IA partout. Le Computex, on en parle depuis deux, trois jours maintenant, qui est ce grand salon à Taïwan, à Taipei plus précisément, mais à Taïwan, donc forcément, sur les puces, les composants informatiques. Évidemment, cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est poussée au maximum. Yves connaît très bien ce salon. Il va nous raconter un peu comment ça se passe de l'intérieur et il nous dira aussi si c'est un bon cru, ce Computex édition 2024. On va parler d'Orange aussi, qui lance une offre de cybersécurité pour le grand public, si on a le temps. Enfin bref, il y a plein de sujets passionnants. Mais pour débuter, les amis, J-5, la WWDC. Alors, première information importante, elle sera à vivre sur BFM Business. Voilà, dès 20h, Tech & Co spécial. Hein, voilà, on casse le déroulé de cette émission. Et pendant une heure et demie, on va vous commenter cette keynote, sans doute en direct. Elle aura commencé à 19h, je crois, hein, Fred. Oui. Donc, on aura déjà une heure à digérer ensemble des annonces. Et puis après, en temps réel, toutes les nouveautés qui seront annoncées par Tim Cook et son équipe seront à suivre en direct sur BFM Business. Donc, notez-le, c'est le 10 juin, dès 20h. Tech & Co, la quotidienne. Mais d'ici là, les rumeurs, on en a plein. Hein. Ça n'arrête pas. La plus importante et peut-être aussi la plus, comment dirais-je, étonnante de la part d'Apple, c'est qu'Apple, qui n'aime pas les partenaires en général, là, visiblement, se dessine un partenariat avec OpenAI parce que, visiblement, dans iOS 18, on aurait du ChatGPT quasiment partout. C'est très intéressant de voir ça. Et évidemment, j'aimerais avoir votre avis. On commence par Marjorie, bien sûr.
Alors, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en réalité, on sait que ça fait plus d'un an désormais que Apple et OpenAI sont en discussion pour essayer de...
Je disais étonnant, excuse-moi, je te coupe, parce que c'est étonnant dans la posture intellectuelle d'Apple d'avoir des partenaires. On sait qu'ils aiment bien tout faire eux-mêmes. Et mais c'est vrai que tu as raison, ça fait un an qu'ils discutent avec OpenAI.
Ça fait un an qu'ils discutent.
Et ça veut dire aussi qu'ils sont à la bourre, en fait, et qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont obligés d'avoir un partenaire.
C'est aussi un aveu, on l'a dit beaucoup sur ce plateau tout au long de la saison, c'est aussi un aveu de pas de faiblesse jamais de la part d'Apple, mais en tout cas dans certains retards sur le développement de leur propre outil d'intelligence artificielle générative et d'outils conversationnels.
Oui, ils ne sont pas prêts.
L'idée, c'est d'aller chercher finalement dans ChatGPT ce qui manque aujourd'hui à Siri cruellement. C'est-à-dire beaucoup plus de fluidité dans les interactions, notamment aussi des fluidités au niveau de la voix. Essayer de trouver une logique qui permet d'aller plus vite de ce point de vue-là. Mais en l'occurrence, OpenAI n'est pas les seuls à discuter avec Apple, ou Apple n'est pas les seuls à avoir choisi OpenAI pour discuter. Tu sais qu'il y a aussi des discussions avec Google qui seront entamées pour incorporer Gemini dans une prochaine version. En gros, l'idée, c'est de dire on essaie de vous proposer le meilleur des solutions sur le marché à l'instant T en termes de robots conversationnels, en attendant de fourbir nos armes et de pouvoir sortir la nôtre. Et je crois que le projet s'appelle Ajax, si j'ai pas d'études de
bêtises. C'est la plateforme sur laquelle ils vont développer.
C'est le travail chez Apple. Après, ce qui va rester primordial dans la façon dont Apple, si je comprends bien les rumeurs pour lundi prochain, qui sortent à droite et à gauche, c'est que Apple veut quand même tenir la main au niveau de la sécurité de ses utilisateurs et des data, surtout, des données des utilisateurs. Donc il ne faut pas se dire que...
C'est un peu dans leur ADN, donc ils sont obligés quand même.
Mais l'idée, ce n'est pas de faire que l'utilisation ou l'incorporation de ChatGPT dans Siri soit un cheval de Troie pour aller absorber de la data utilisateur. Et quand bien même, l'idée, c'est de dire... On veut être ultra transparent. Quand la réponse a été générée par ChatGPT dans Siri, on va l'afficher. Et vous aurez même, vous, utilisateur et utilisatrice, la possibilité d'activer ChatGPT ou pas. C'est-à-dire que ça ne va pas être installé par défaut.
Donc on aurait le choix.
On aurait, alors d'après les rumeurs, nous sommes en train de lire et de commenter les uns et les autres.
Yves, quel est ton point de vue sur ce partenariat entre Apple et OpenAI? Si, s'avère exact, hein, parce que rappelons-le, rien n'est officiel. Oui. Tout ça, ce sont des rumeurs, des supputations. Hein.
Alors, dans la tête d'Apple, les partenariats, comme tu dis, c'est pas génétiquement, ouais, c'est pas Apple.
Okay,
donc, quand il y a un partenariat, il est toujours en second plan. Okay. Et là, ça va être, à mon avis, assez intéressant. Donc, moi, je ferai le pari que la keynote, elle va se faire à peu près en 3 étapes. Okay. D'abord,
allez, on lance les paris.
D'abord, on n'aura pas de surprise hardware majeure. Ça va vraiment être que du software sur iOS 18. Et je pense qu'il y a une première partie, quelque part, qui va rappeler les fondamentaux d'Apple. L'expérience client à la clé. Okay. La sécurité. Okay. Et le fait que les données doivent être préservées. C'est-à-dire, ne doivent pas être mises sur le cloud et doivent rester sur le smartphone. Donc, je pense qu'il va y avoir toute une partie qui est l'ADN profond d'Apple, et comme ils sont super bons en marketing, ils vont se différencier de tous les autres en rappelant cet ADN qui est extrêmement forte et extrêmement importante. Okay, en disant, moi, je ne veux pas utiliser le cloud, ou si j'utilise le cloud, c'est à minima, et vos données restent sur l'iPhone, et l'expérience client, c'est la vôtre. Et c'est là-dessus que nous, Apple, on met toute notre recherche d'intelligence artificielle, qui n'est donc pas générative. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est d'expliquer ce que ça veut dire pour l'utilisateur. Par exemple, on a une photo et on dit ben, « je veux que le ciel soit plus bleu ». Et donc, on va dire « je veux que le ciel soit plus bleu ». Et on va voir une démo de Steve Jobs où le ciel va devenir tout bleu. Ou de dire « classe-moi des emails par ordre alphabétique ».
Je ne sais pas si on aura une démo de Steve Jobs, parce que le pauvre, il en sort un moment qu'il en fait plus.
Généré par intelligence artificielle, ils vont très très loin. Ce partenariat va très très loin.
Donc, ils vont nous parler...
Cela dit, Steve Jobs a été... Il y a une résurrection de Steve Jobs grâce à l'IA. Il y a eu plein de gens qui ont fait des interviews, qui ont renumérisé sa voix et tout. C'est impressionnant.
De Tim Cook, excusez-moi.
Tim Cook.
Donc, la deuxième partie, c'est d'expliquer comment, grâce à leur nouveau chipset, grâce à tous les efforts qu'ils
ont fait, les applications concrètes,
les applications sur le téléphone vont embarquer l'IA. Et ça, c'est les meilleurs. Et ça, dans ce domaine-là, sur le Edge, honnêtement, personne n'en arrive à la cheville. Donc, je pense qu'ils vont vraiment insister là-dessus. Puis après, ils vont dire, cela étant, on comprend qu'il y a une IA générative, okay, comme on est les meilleurs... On vous donne accès, grâce à un partenariat, à l'IA générative, qui est optionnelle. Et si vous avez des hallucinations, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais parce qu'ils vont être relativement prudents.
Mais malgré tout, l'appli ChatGPT existe déjà sur iPhone. Tu peux avoir l'appli ChatGPT.
Non, mais ils vont l'intégrer donc, dans Siri. Ils vont faire
Ils l'intègrent quand même pour rendre Siri plus intelligent et moins bête. Enfin, voilà. Plein de choses comme ça quand même. Donc,
Par contre... Moi, ce que j'attends...
Tu crois qu'ils vont quand même communiquer sur le fait, attention, là, c'est plus nous, vous risquez d'avoir des hallucinations?
Non, ils vont pas communiquer en négatif. Tu peux pas, sur non, une keynote, tu peux pas communiquer en négatif. Mais ils vont quand même faire la distinction de ce qui est protégé de manière certaine dans la structure légale Apple, c'est-à-dire pour lequel Apple est juridiquement responsable, alors ce ne sera pas dit comme ça, et une autre partie sur laquelle Apple se sent moins engagé ou est juridiquement moins responsable, qui est un peu une entorse à la philosophie d'Apple. Alors après, moi, ce que j'aimerais entendre, j'en sais rien, c'est dire que ChatGPT 5 la première application de ChatGPT 5, ce sera sur Siri. Et ça, ce serait probablement le cherry on the cake.
Ouais. Ça serait une sacrée grosse exclue. Et voilà. Mais alors Microsoft, mais là, ils sont comme ça.
T'as quelqu'un qui s'appelle Microsoft et à mon avis, ça.
Ils vont pas laisser faire.
Ouais. Et ils laisseront pas faire. Non, moi, voilà.
Sauf si Apple lâche les milliards, parce que ça peut être ça aussi.
Ouais, il y a quand même 13 milliards qui ont déjà été lâchés par Satya Nadella pour Sam Altman.
Je vous rappelle quand même le montant des accords entre Google et Apple, c'est 18 milliards, je crois.
Hein.
Par an. Donc, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est des sommes monstrueuses.
Mais on n'est plus à 1 milliard.
Le OpenAI est quand même bien emmêlé avec Copilot et tout ça.
Certes. Non, mais je pense que. Mais c'est vrai que ça serait un super joli coup, là.
Mais pas forcément exclusif. Mais l'annoncer à ce moment-là, ce serait un joli coup.
Oui, mais ça veut dire que ça ne serait pas Microsoft qui l'annonce en premier.
Non, ce serait pas Microsoft qui l'annonce.
Et là, ça serait quand même compliqué, quand même, pour une boîte qui est sponsorisée par Microsoft.
Ah, Sam Altman est capable de tout.
Ouais, c'est sûr.
Yves n'est pas loin de ce qui va sans doute se passer. Je pense qu'aussi, en filigrane, ce que va devoir montrer Apple, c'est mais on n'est pas derrière. On devait attendre notre WWDC. Attendez, on a pris le meilleur ChatGPT. On a continué à poursuivre nos puces qui sont toujours plus puissantes à regarder. Et puis nous, on vous offre cette expérience utilisateur. Et je pense que c'est là où là aussi ils sont très forts pour dire ah non, mais attendez, vous disiez tous qu'on était à la ramasse, mais on n'est pas du tout à la ramasse. Regardez,
on est les meilleurs. Produits.
Qu'est-ce que vous vouliez faire de plus sur votre portable, sur votre smartphone? Ben on le fait. Donc voilà. Alors après, on pourra leur dire oui, mais c'est pas encore disponible sur Mac, c'est pas encore disponible sur la tablette. Mais je pense que l'un de leurs grands rôles, c'est de se repositionner. Et puis même le cours d'action reste toujours élevé parce qu'on va leur dire oui, mais la Chine, ça se passe pas aussi bien que ça, les ventes de smartphones, etc. Mais le truc, c'est de dire non, mais nous, on est au même niveau. Hein. On collabore avec OpenAI, on collabore avec Google, et puis nous, on est vraiment vous placez-nous en tête parce qu'on est vraiment dans cette course-là. Et c'est là où nous, depuis des semaines, on le dit, ouais, Apple, ils sont à la ramasse, hein, leur truc Ajax n'est pas prêt, tout ça. Et eux, leur grand message, même s'ils sont effectivement en retard, puisqu'ils s'appuient sur OpenAI et ils auraient préféré avoir leur propre outil, mais c'est le moteur de recherche, c'était pareil. Mais ça va être de dire, non, regardez, on est
ils sont en retard sur les AI génératives.
Oui.
Mais sur les AI applicatives,
ils sont au niveau des autres.
Voire même en avant.
Mais en l'occurrence, si en effet, on avait cette annonce qui tombait lundi prochain à 20h sur en direct sur BFM Business, ce serait une solution de court ou de moyen terme. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un partenariat qui peut être prolongé sur une durée indéterminée.
C'est un peu une rustine.
Dans la mesure où l'idée, c'est quand même de sortir un chatbot made in Apple, in fine, à un moment donné. Après, je comprends très bien le côté win-win perso pour Sam Altman et OpenAI, je comprends moins bien le côté win-win pour Tim Cook lui-même. Pour Sam Altman, c'est très simple, et OpenAI, il rentre de fait dans encore plus de millions d'unités de devices.
Mais je pense que pour Apple, ils n'ont pas le choix. En fait, il leur faut l'IA générative, parce qu'autrement, là, ils seraient complètement largués au niveau innovation technologique. Ils ne sont pas prêts, et ils sont obligés de pacter avec le diable, parce que Microsoft, c'est un peu le diable dans cette histoire-là, et OpenAI.
Donc, il faut savoir que Tim Cook, lui, il sait ce que c'est qu'OpenAI 5. Nous, on le sait pas.
Oui, bien sûr. Il a vu les démos, il sait exactement.
Lui, il sait.
Et voilà.
Et il peut pas laisser Siri.
Non. On est d'accord.
C'est pas possible.
Juste une chose, pour terminer là sur les rumeurs de la WWDC, Yves, j'espère quand même qu'il y aura un mot sur le Vision Pro, quand même. Parce que là, ça c'est bien sympa, mais le casque d'Apple, qui devrait d'ailleurs sortir dans quelques semaines en France, ça c'est les dernières rumeurs aussi, il devrait arriver. J'espère que durant la WWDC, où il avait été annoncé l'année dernière, on aura peut-être une belle mise à jour, ou peut-être de nouveaux partenariats, etc. etc.
Ouais. Je suis pas du tout sûr que ce soit la pièce maîtresse de l'annonce. Je pense que.
Je pense qu'il y aura un mot quand même sur Vision.
Il y aura forcément un petit mot, parce qu'il faut continuer à faire rouler la balle, pour pousser la boule. Mais je pense pas que ce soit du tout l'objet de cette conférence. Il est obligé de dire un mot parce que il faut que tout le monde participe, il faut que tous les produits soient sur la chose. Mais je me frotte
les mains parce que là les paris sont lancés, les amis. Moi je pense qu'ils vont parler quand même du Vision Pro quelques minutes, mais on verra bien.
Ouais, quelques minutes sur 2 heures.
Ouais, c'est vrai. C'est quelques minutes, c'est 2 minutes en fait. C'est à partir de 2 minutes. Allez, on enchaîne avec le concurrent de ChatGPT, c'est évidemment Gemini. Comment tu dis, Gemini?
Gemini,
exactement. Qui tant bien que mal essaie d'être au niveau de ChatGPT. On voit que c'est quand même assez compliqué, hein. Mais ça y est. Gemini, l'application est disponible en France. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone Android, vous pouvez télécharger l'appli sur le Play Store et avoir donc cet assistant d'IA générative et voir ce qu'il a dans le ventre.
Il va vous répondre que le premier président musulman, c'était Obama, puisque c'est ce qu'il a répondu sur le PC. Donc il va
et que manger des cailloux, c'est toujours une bonne idée.
Voilà, donc, c'est, et c'est pas Grok, hein, parce que là, on aurait pu se dire, ben voilà, c'est l'IA un peu rigolote d'Elon Musk. Non, même pas.
Le Grok de Axon.
Voilà, c'est ça.
Même pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, juste une précision, c'est que vous dites, oui, mais sur iPhone, ça y est pas. Ça va arriver, mais par l'appli Google, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une appli Gemini. Il y a une appli Google sur l'iPhone, hein, et bien vous pourrez accéder à l'assistant conversationnel Gemini sur directement l'iPhone par cette appli. Mais Google joue gros quand même, non, là, parce que ils lancent leur bébé comme ça dans la nature, ils lancent en France, il faut que ça marche.
Oui, mais je lisais hier ou aujourd'hui un des derniers benchmarks, enfin un comparatif, comme on dit, entre les 3 AI et Gemini,
sur certains
points, sur les images, les traitements d'images, etc., serait même au-dessus de ChatGPT. Alors, je pense que c'est vraiment dans les détails qu'il faut regarder, mais Google est en train de rattraper son retard. Alors, il a encore des hallucinations, on en rigolait tout au début, ça va s'améliorer, mais c'est un acteur avec lequel il faut compter, hein. Et surtout que maintenant c'est dans Android, il ne faut pas oublier que Android a 70% de part de marché dans le monde, okay, où Apple en a que 30, ça veut dire que 7 personnes sur 10 en France vont accéder à l'intelligence artificielle par Gemini et probablement pas par OpenAI.
Ce qui est dingue, c'est comment OpenAI a donné un coup d'accélérateur à tout ça et qu'ils ils vont sortir un produit qui n'est pas tout à fait prêt quand même. Enfin voilà, les hallucinations vont en avoir. Alors, et on voit qu'ils sont obligés de réagir face à un OpenAI qui est en train de faire la course en tête, parce qu'il faut quand même voir que dans les entreprises, y a des choix qui se font aujourd'hui. Alors souvent, les entreprises n'appuient pas tout sur le même, et fort heureusement pour elles, puisque hier, on a eu cette panne monumentale OpenAI. ChatGPT, même Gemini et puis Anthropic ont eu leur moment un peu d'égarement. Il y a que Mistral qui a toujours fonctionné, mais Mistral est uniquement dans l'univers entreprise, il n'est pas pour la partie grand public. Mais en tout cas, donc les entreprises elles commencent à s'habituer à mettre un peu, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais là, il est important pour Google de montrer qu'il reste dans la course. Ne serait-ce que, alors on parlera de licenciement tout à l'heure, mais ne serait-ce que pour continuer à attirer des chercheurs et tous ces gens-là, leur dire, voyez, nous on est dans la course, qu'on n'est pas en train de se laisser dépasser.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit du côté entreprise ou que ce soit du côté utilisateurs en B2C pour le coup, on est rentré dans la mode c'est plus le bring your own device, c'est bring your own AI. Donc quel va être le chouchou, l'agent conversationnel préféré des utilisateurs finaux, c'est ce que joue la Google en l'occurrence dans ce match-là.
C'est ce que tout le monde joue en fait en ce moment. Quel va être le doudou IA en fait finalement.
Exactement, et pour la partie B2C, ton doudou, tu veux surtout savoir ce qui t'aide à faire. Est-ce qu'il t'aide à bien dormir? Est-ce qu'il t'aide à faire de beaux rêves? Et c'est là où il va falloir être extrêmement concret pour Gemini et pour Google, montrer en quoi Gemini aide incroyablement à augmenter les capacités de ta réflexion et surtout ta recherche.
Pour terminer la suite.
Cela étant, depuis une semaine, mais vraiment depuis quelques jours, de manière beaucoup plus forte, il y a une voix qui monte ou une vague qui monte aux États-Unis. Il y a encore eu une lettre qui est parvenue de manière anonyme, mais avec, on sait, parce que c'est toujours anonyme pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui savent, ce n'est pas anonyme.
C'est pas anonyme, c'est ça.
Avec des grandes plumes derrière, qui disent, attention les gars, on est en train de jouer un peu à Dr. Faust ou à la Apprenti sorcier. On a bien vu qu'un certain nombre de personnes ont démissionné, les gens de la sécurité ont démissionné d'OpenAI. Et là, il y a des courriers, il y a des voix quand même qui se lèvent, qui sont en train de dire attention,
on va trop loin.
Il y a des problèmes de sécurité.
C'est pas la première fois.
Et
hein,
ça va trop vite. Oui, sauf que la première fois. On va
le
dire
premier
que...
patron de l'IA chez Google, comment s'appelle-t-il, Fred? Toi, tu connais son nom?
Goodfellow, enfin l'ancien. Non, enfin, le patron chez Google. Non, ça c'était l'ancien.
Qui est parti, qui était un peu le papa de l'IA chez Google.
Oui.
Quand il est parti, il y a deux ans, et en partant, il a dit.
J'ai l'impression de jouer au trial poursuite là. Donc
c'est ça, hein. Exactement. Je peux vous le dessiner si vous voulez, mais.
Et il y a trois semaines, c'est celui d'OpenAI qui a fait la même chose.
Voilà. Et il avait dit à l'époque, attention, ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, ça peut devenir un danger pour l'humanité.
Et il y a un débat qui est en train de monter aux États-Unis sur la régulation externe, ce que nous, on a, enfin, ce que en Europe, on a fait.
Avec l'IA. Ah, déjà. Jeff Hinton.
Et Jeff, bien sûr.
C'est ce qu'on cherchait.
Marjorie le connaît par cœur. Et l'autorégulation, donc je reprends.
Oui.
Donc, un débat aux États-Unis qui est-ce qu'il faut réguler le choix qu'on a fait en Europe avec une régulation externe ou est-ce qu'on doit avoir l'autorégulation ? Et j'écoutais, il y a encore une fois quelques heures, un débat aux États-Unis où ceux qui sont contre la régulation prenaient l'exemple, ils disaient la régulation interne des entreprises. Les entreprises du tabac, c'est ça ? Les entreprises de l'armement, les entreprises de la junk food, c'est ça dont vous voulez ? Et donc, il y a un vrai débat en pleine campagne électorale qui est en train de monter sur est-ce qu'il faut réguler ou est-ce que c'est la régulation interne ? Et c'est exactement le débat d'OpenAI.
Mais il pourrait s'inspirer de ce qu'on fait ici, en Europe.
Mais justement, il mentionne ça.
Et en effet,
il regarde de près.
Tiens, l'IA, on enchaîne, les amis, avec cette IA qui pourrait remplacer les artistes. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, et à partir d'œuvres existantes, on en a déjà parlé, l'IA arrive à créer de nouvelles chansons. C'est-à-dire que vous dites à un logiciel, vous écrivez un texte, et cette IA va créer une chanson avec le texte que vous avez écrit. Et le truc, c'est que la plupart du temps, c'est plutôt pas mal en plus. C'est plutôt réussi. Mais bientôt, elle n'aura même plus besoin d'inspiration, cette IA. Et c'est l'inquiétude, en fait, de la patronne de la SACEM, qui s'appelle Cécile Rapp-Weber. Elle était hier matin l'invitée de France Info. Et on l'écoute, vous verrez, vous allez voir ce qu'elle dit est très très intéressant. On revient juste après.
Ce qui va être beaucoup plus challenger pour nous, dans le futur, très proche d'ailleurs, parce qu'on voit déjà les résultats, c'est que, comme vous le savez, les intelligences artificielles ont besoin de se nourrir d'œuvres préexistantes, notamment de toutes les œuvres de la SACEM. Elles les aspirent et finalement, elles arrivent à faire, en sortie de process, des nouvelles œuvres. Et on arrive malheureusement à un chiffre qui est terrible, puisque ça serait 27% des créateurs qui viendraient à disparaître, ce qui représente à peu près 2,7 milliards d'euros en cumulé d'ici à 5 ans pour uniquement les Français et les Allemands. Donc vous imaginez au niveau mondial.
Alors, c'est la patronne de la SACEM. Elle n'est pas totalement neutre, la dame. Elle est très sérieuse, très compétente sans doute, mais c'est la patronne de la SACEM. Elle est là pour défendre les musiciens, les auteurs, les compositeurs et les interprètes. On est d'accord ?
Ouais.
Mais malgré tout, ce chiffre est quand même impressionnant. 27% des créateurs pourraient disparaître grâce à l'IA.
Alors, en l'occurrence, la Cécile Rapp-Weber fait référence à une étude qui a été menée en effet par la SACEM et la SACEM allemande qui s'appelle la GEMA, qui date du début 2024, janvier-février 2024, dans lequel il y avait en effet ce chiffre pronostiqué de 27% de créateurs et créatrices qui pourraient être amenés à disparaître par les créations générées par l'IA générative. Ce qu'elle ne dit pas dans cette phrase-là, mais elle le sait, elle le connaît son étude par cœur, c'est qu'en l'occurrence, l'étude dit aussi que 3 milliards de dollars pourraient être générés en revenus grâce aux créations AI Gen d'ici 2028. Donc en fait,
oui, ça s'équilibre en quelque
exactement,
sorte.
Les milliards
le business de s'équilibre, dont elle parle, mais à qui on redistribue ces 3 milliards ?
Alors,
c'est ça le problème.
Exactement. Et toute la question, tout le nœud gordien justement des questions d'IA générative et de création et des industries créatives est là. Qui a encore l'IP et qui peut bénéficier de façon sonnante et trébuchante, c'est-à-dire en monnaie, en argent, de cette IP-là. C'est l'enjeu du siècle pour toutes les industries créatives. Je sais qu'hier, par exemple, tu parlais notamment des doubleurs des métiers du cinéma, qui aussi ont du souci à se faire en la matière. On est vraiment sur des questions de redistribution et même de financement tout court de la création à terme. C'est vraiment le problème. Dans cette même étude, il y a aussi un chiffre qui est assez intéressant. C'est-à-dire que je crois que c'était 15 000 à peu près créateurs et créatrices, éditeurs et éditrices sur lesquels ils se sont basés entre la SACEM française et allemande. Tu as 31% déjà de créateurs qui disent qu'ils utilisent l'IA dans leur quotidien, dans leur création. Ça monte à 50% pour les créateurs de moins de 35 ans.
Et oui. Bien sûr.
Donc, si elle veut continuer à fidéliser aussi, parce qu'il y a aussi, alors, il se trouve qu'à côté SACEM, on est en période d'élection et donc de renouvellement du board aussi. Je donne ce sous-texte, on ne sait jamais, avec toutes les métiers que j'ai pour Cécile Rapp-Weber par ailleurs. Mais on est aussi dans l'idée de se dire, OK, comment est-ce qu'on va aller défendre ces créateurs et ces créatrices ? Et surtout, comment est-ce qu'on assure la continuité de notre business avec les jeunes qui sont là aussi pour continuer à être adhérents à la SACEM ?
Qui veut enchaîner là-dessus, pour terminer.
Moi, ce que je dirais, c'est que je regarde pas sous cette perspective-là, parce qu'il y a une perspective financière, et ils veulent garder leur vache à lait, ça je le comprends. Moi, je regarde ça sous la forme d'outils. Il y a eu le clavecin, puis après, il y a eu le piano, puis après, il y a eu le synthétiseur. Dans la musique, on écrivait les notes à la main, et puis après, à l'IRCAM, Pierre Boulez, il a inventé des machines avec des physiciens qui programmaient ça. Maintenant, la future machine de feu Pierre Boulez, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est une évolution. Donc moi, je regarde l'intelligence artificielle non pas d'un point de vue financier, d'un point de vue artistique. C'est un nouvel, c'est une nouvelle machine ou un nouvel instrument de musique qui va permettre d'augmenter et de faire des performances musicales d'un autre domaine. Et je pense que quelqu'un comme David Guetta, à mon avis, va s'en emparer déjà et va continuer à s'en emparer pour faire des trucs extraordinaires.
Sauf si je puis me permettre, petit bémol par rapport à ce que tu dis,
c'est bémol, que c'est le plus qu'à le dire.
C'est beau.
Ouais. J'ai même pas fait exprès en plus. C'est ça
en
qui
plus.
Est fort.
Mais c'est ça qui est beau. C'est intuitif.
C'est intuitif.
Appuyez sur la touche dièse, c'est ça.
Attendez, parce que j'ai quasiment oublié ce que je voulais dire. Non, mais ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a eu des évolutions dans la fabrication de la musique. Mm-hmm. Mais là, c'est la création de la musique. Depuis toujours, il y a eu un compositeur et un auteur. Là, en fait, le compositeur et l'auteur, c'est l'IA. Et c'est ça, c'est complètement nouveau. Parce que comment tu vas faire pour rémunérer une IA qui va créer une chanson? Elle se sera forcément inspirée de Jean-Jacques Goldman, de Céline Dion, de Fred Simotel sous la douche, pour en faire un truc sympa. Mais
ce sont des Rubik's Cube en matière de droit d'auteur qu'on étudie depuis très longtemps. En l'occurrence, tu as déjà des décrets européens, tu as déjà des définitions en droit nationaux.
Pour terminer.
Par rapport à la création, elle est plus sur toute la bataille juridique autour des droits, des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle. C'est plus là-dessus qu'il faut se battre plutôt qu'aller dire on va interdire l'IA ou je ne sais quoi.
Le Computex dans un instant. Yves Maître, Marjorie Paillon, Frédéric Simotel, quotidienne de Tech & Co revient juste après l'info éco qui arrive tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec pour débriefer l'actu ce soir, Marjorie Paillon, qu'on ne présente plus, journaliste tech, bien évidemment. Yves Maître est avec nous, et Frédéric Simotel. Et Aude Kersulek nous a rejoint aussi. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
Aude, tu vas nous parler de Google et Microsoft qui licencient dans leur filiale cloud, et pas qu'un peu.
Oui, des centaines d'emplois concernés, ça commence à être coutumier dans la tech, mais là, ça vise les divisions du cloud, environ une centaine de personnes concernées chez Google Cloud, vente, opérateur, ingénieur, conseil et stratégie de mise sur le marché, beaucoup de métiers concernés, c'est ce qu'avance en tout cas CNBC, des licenciements qui ont déjà eu lieu après d'autres vagues déjà chez Google au début de l'année. Alors c'est un petit plan chez Google par rapport à ce qui se passe chez Microsoft. Là, c'est dans la division Azure. C'est quand même étonnant parce que la division Azure, elle investit dans l'intelligence artificielle. C'est elle qui est aussi à l'origine d'un partenariat avec OpenAI et ChatGPT. Des salariés concernés, notamment ceux qui travaillent sur le casque de réalité mixte HoloLens, ainsi que des programmes sur le spatial ou encore l'informatique quantique. Donc un petit peu plus de 1500 personnes. Azure, c'est aussi normalement un levier pour Microsoft en termes de revenus et de croissance des revenus. Alors là, il semble qu'il faille préserver les marges, en tout cas en bourse. C'est positivement accueilli sur les marchés. Il faut dire qu'on est dans un jour où tout monte aussi dans le secteur de la tech. Plus 1,6% pour le titre Microsoft. C'est un petit peu moins pour le titre Alphabet qui monte en ce moment de 0,4% à Wall Street.
Merci beaucoup, c'était Aude Kersulek. Messieurs, dames, petite réaction peut-être à cette explication claire d'Aude concernant ces licenciements dans le cloud. C'est vrai que nous, dès qu'il y a des licenciements, ça nous choque, mais est-ce que ça choque les Américains finalement? Parce que là-bas, c'est un peu le quotidien, quoi. Il y a les boîtes se délestent de centaines de personnes, mais après vont réembaucher peut-être même plus dans d'autres branches.
Oui.
Et les ingénieurs qui partent de Microsoft vont chez Google ou ils vont chez Apple, etc. Enfin, pour nous, c'est une actu. Mais est-ce que c'est une actu, tiens, aux États-Unis, Yves?
Ceux de Azure, ils sont à Seattle. Et AWS et à Seattle. Donc, je veux dire qu'il y en a 1000 débauchés d'un côté, on les rembauche de l'autre, etc. etc. Non, mais il faut faire attention parce que quand on entend avec la culture française, comme tu le dis, licenciement, c'est un drame.
Voilà, il y a toujours cette psychose, on va dire, sociale qui est.
Alors, on pourrait interpréter ça comme tiens, le cloud se casse la figure. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Le cloud est en train d'augmenter, tous les chiffres le donnent, il suffisait d'écouter tout le monde. Okay. Alors, on se dit. Pourquoi, tout d'un coup, Microsoft licencie 1500 personnes? Alors, ils licencient 1500 personnes sur un domaine très spécifique. C'est-à-dire, ce sont des choses où ils ont lancé, parce que c'est comme en recherche, on lance des projets de partout.
C'est Google 1500, ouais.
C'est Microsoft. C'est sur la division quantique du cloud et...
Et telco. Et puis aussi sur HoloLens. Okay.
Ouais, alors,
Telco, il en restait encore des gens chez Windows Phone.
Non, c'est pas ça. Non,
je plaisante.
C'est très sérieux parce que moi qui suis un passionné de telco, parce que ça a quand même été une partie de ma vie, en fait, à un moment donné, on a dit on va virtualiser les fonctions du cœur de réseau d'un télécom. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des machines dédiées, on va les mettre dans le cloud. On va virtualiser les réseaux de télécommunications. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait. Donc Microsoft, qui a un gros cloud, comme AWS, ont embauché des ingénieurs en télécommunications pour dire, voilà, votre boulot, votre recherche, c'est de faire ça. Pour mettre à mal les Sony, les Nokia, les Huawei, les ZTE principalement. Okay, et donc il y a eu énormément d'argent qui ont été investis dans cette chose-là. Et là, on n'y arrive pas, ou ils n'y arrivent pas comme ils le voudraient. Donc ils sont en train de diminuer grandement les frais de recherche. Donc évidemment, ces ingénieurs-là qui étaient très spécialisés, il les renvoie à leurs chères études. Pareil sur HoloLens. Donc il faut faire attention à ce que le public ne pense pas qu'il y ait une crise du cloud, ne pense pas que Microsoft...
C'est des licenciements plus stratégiques qu'économiques. Alors évidemment, les deux sont intimement liés, mais c'est plus pour des raisons... On change de stratégie que pour faire des économies véritablement. Parce qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose, ça marche pas, on arrête quoi.
On fait cette économie-là parce qu'on a besoin de la déporter ailleurs, en l'occurrence, évidemment, comme tout le monde, sur l'IA générative, et ça veut surtout pas dire que le cloud est mort, parce que le cloud et l'IA font bon ménage, comme tout le monde le sait autour de cette table. Au contraire même, c'est une proposition forte pour Azure et pour Google Cloud vis-à-vis de leurs clients. Et les derniers résultats trimestriels de Microsoft notamment ont ultra performé parce que la moitié de ce chiffre d'affaires-là venait justement du cloud. Oui. Donc, je suis d'accord avec Yves, il ne faut pas que le terme de licenciement transporté dans une culture du travail française ou francophone ne fasse plus peur que ce qu'elle ne veut dire en réalité pour la stratégie de ces boîtes qui disent « nous, on reste agile et on a des stratégies qui justement sont créatives et sont agiles en fonction des besoins qu'on a ».
Oui, il faut remettre en perspective, hein, Microsoft, c'est près de 150 000 personnes, on est à 1% des gens.
Puis dans 3 semaines, ils vont en embaucher 500 autres dans d'autres secteur, en fait. C'est ça.
Pareil pour Google qui a 72, 75 000 personnes. Bon, déjà, voilà, faut voir le nombre. Alors, nous, c'est vrai que quand on nous dit on licencie 1500 personnes, nous, c'est une entreprise qui s'arrête, que c'est une entreprise qui meurt chez eux, pas du tout. Et puis, je pense qu'il y a effectivement cette partie métier. Il y a une partie aussi d'automatisation qui se fait aujourd'hui grâce au cloud. Et le cloud, souvent, on le voit dans les entreprises, on commence à avoir des vrais spécialistes cloud dans les entreprises qui en plus font appel à des services automatisés, donc il n'y a pas besoin d'autant de force commerciale. Donc là aussi,
ça se vend tout seul, quoi.
Ça se vend pas tout seul, mais il n'y a plus besoin d'avoir le commercial qui va venir expliquer. Les gens disent, moi je veux tel type de service. Il va sur une plateforme, il va les choisir.
Oui, ils commencent à être acculturés, en fait.
Voilà, ils sont acculturés là-dessus. Et d'ailleurs, ils le disent, c'est plus des ajustements. Alors il y a l'ajustement technologique, il y a l'ajustement commercial, voilà, et derrière ça libère des budgets pour d'autres pour aller fournir l'IA où là on a besoin de gens qu'on va payer d'ailleurs assez cher, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi voir, tu vois, par rapport aux opérateurs, c'est qu'ils travaillent avec ces opérateurs, puis ils disent finalement cette partie là c'est vous qui allez la faire, nous on voit tous ces gros accords avec Orange qui a profité du Mobile World Congress pour annoncer des gros partenariats dans le cloud avec Google, avec tous les grands acteurs. Donc voilà, on est là aujourd'hui. On est dans des offres spécifiques. Amazon, AWS, ils signent avec des grands industriels allemands, avec Volkswagen, etc. Donc, voilà, ils vont aller directement à former les gens, à travailler avec eux. Google en France, Google Cloud, c'est avec Carrefour, c'est avec Total Energy. Voilà, c'est des forces assez spécifiques, quoi. Ils préfèrent investir là-dedans qu'avoir effectivement, en plus, sur un métier où peut-être qu'ils arrivaient en bout de chaîne en se disant bon, on n'y arrivera pas, on va s'adresser aux spécialistes. Donc allons-y.
Et puis c'est le pragmatisme de ces grosses boîtes, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand ça marche pas, c'est pas grave. On arrête
chez
et
Google,
on part sur autre chose.
Plus des commerciaux, chez Google, quand on regarde un peu les profils, c'est du commercial, du ce qu'ils appellent du go-to-market. On sait vraiment celui qui va. Donc là encore, là on est dans l'effet automatisation entreprise. Il n'y a plus besoin d'autant de commerciaux pour vendre ça. Et puis je pense que c'est toujours, on vit encore la fin des années Covid où on a embauché. On s'est dit, oh là là, ça va pousser, tout ça. Puis on se rend compte que,
finalement, on revient à la normalité.
On a peut-être un peu trop embauché. Enfin, quand on appelle des gens à Silicon Valley, ils disent, moi, dans mon équipe, j'avais 3 personnes. Ils étaient en formation depuis 9 mois. Il y a un moment, si on leur trouve quelque chose, ils ont un projet.
Puis honnêtement, quand on embauche massivement, Bah, des fois, on n'embauche pas que des bons. Ouais. Des fois, on embauche des gens qui n'arrivent pas à s'adapter à la culture d'entreprise, bien qu'ils soient bons. Et les Américains, ils sont assez pragmatiques. S'il faut couper, on coupe, quoi. Bon, pas bon. Enfin, on essaie de garder les bons, mais t'as pas réussi à t'adapter, t'es pas dans le rythme. Tac, terminé.
Faut noter bon. Juste le transfert du patron de Microsoft, Copilot, qui est parti chez Google sur l'IA, là.
Ah, ouais, c'est un joli mercato quand même. Hein.
Foot, hein. C'est vraiment,
ouais, c'est vraiment là, oui. Il quitte la première équipe de Ligue 1 pour aller.
Au Real Madrid.
Mais c'est ça, exactement. Dans l'actualité aussi, c'est évidemment du côté de Taïwan et plus précisément de Taipei avec le Computex. Gros salon informatique historique, hein. Ça existe depuis combien de temps, Computex? C'est vieux comme le monde, ce truc-là.
90, 92, ouais, voilà, comme ça.
Gros salon dédié à l'informatique, aux puces, etc. Qu'on évoque tous les soirs dans Tech & Co, parce que, alors non pas qu'on est obsédé par le Computex, mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui la valorisation de la puissance de calcul, notamment avec l'IA, tout se trame là-bas, et toutes les annonces ont été faites là-bas, hein, Yves. Tu connais bien le Computex, puisque tu as été dirigeant de HTC il y a quelques temps de cela, qui est une boîte taïwanaise, donc tu connais tout cet écosystème. Hein. Computex, c'est incroyable, ce salon.
Alors, d'abord, moi je pense que tu parlais en introduction, tu dis, est-ce que c'est un grand cru? C'est un changement. Avant, il y avait Computex 1.0, maintenant, c'est Computex 2.0. Et je pense qu'il faut vraiment expliquer aux gens que le PC tel qu'ils l'ont vécu, bah, c'est un peu comme le Minitel d'avant, quoi. Ça va se terminer à la poubelle. Okay. Alors, jetez pas vos ordinateurs.
C'est ce que Microsoft dit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Si votre PC ne peut pas être mis à jour pour Windows 11, c'est d'ailleurs, ils se sont fait toquer sur les réseaux parce que ils disaient, il faut changer de PC, quoi. Il faut que vous jetiez votre PC pour en prendre un nouveau, ce qui est pas très mal.
Ce Computex là, c'est le premier Computex de l'ère de l'intelligence artificielle. Mmh. Et les gens disent, ce n'est plus un PC. C'est un intelligence artificielle PC, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça qu'il faut lire. Par-delà le changement de nom,
ça pourrait être que du marketing finalement. C'est pas la première fois qu'on nous raconte
dans le monde ancien du PC.
Ah ouais.
Dans le monde ancien du PC, le leader du PC quelque part, c'était Intel. Il avait au départ 100% de part de marché, ok. Puis après, le régulateur l'a obligé à en créer un autre, donc il a donné la licence de sa langue, parce qu'il y avait une langue Intel. Cette langue Intel s'appelle le X86, donc on l'a forcé. Alors tu peux pas être tout seul à parler cette langue et être monopolistique, d'avoir un monopole mondial. Donc tu donnes la langue à un autre. Alors il y a eu AMD qui a été créé. Donc il y avait deux personnes qui avaient le droit de parler de cette langue.
C'est taïwanais AMD, non? C'est ça?
Non, c'est une taïwanaise qui dirige.
Ah oui, pardon. AMD. C'est une taïwanaise, mais
comme c'est un taïwanais qui dirige Nvidia.
Oui.
Taïwanais américain dans le.
Mais AMD quoi, est américain?
Elle est taïwanaise.
Non, mais la boîte.
AMD est américaine.
Oui,
une boîte américaine. Mais les deux, Nvidia et AMD, sont dirigés par une femme et un homme. Et bon, ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, en gros, il y avait la langue des PC, c'était Intel, qui avait 80% de part de marché.
Attention au micro, à chaque fois, tu tapes dedans.
Je suis désolé.
C'est pas grave, ça fait prrr, et je pense que nos auditeurs, les pauvres qui sont dans la voiture.
Et 20%, c'était AMD.
Ça va déclencher les airbags dans la voiture.
Et 8 millions de rappels.
Oui, ça fait beaucoup.
Et là, tout d'un coup, comme c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, les gens se disent, cette espèce de monopole d'Intel, on va le bouffer. Alors, il y a AMD qui dit, moi, je vais le manger toujours sur dans le langage X86. Et puis, tu as Qualcomm et Nvidia qui disent, mais il n'y a pas de raison que vous continuez à parler X86 parce que la langue de l'opérateur, la langue de l'intelligence artificielle, c'est une autre langue qui s'appelle du ARM. Okay. Donc, moi, je dis, et je vais attaquer le monopole d'Intel en disant, dans le futur, je vais prendre 50% de part de marché. Ce qui veut dire que, AI PC sur deux parlera ARM et l'autre parlera X86.
Avec derrière, excuse-moi je te coupe parce que c'est important, l'arbitrage de Microsoft qui souffle le chaud et le froid là-dedans. C'est-à-dire que Microsoft dit, ok, bon, moi je préserve toujours Intel et AMD, mais je vais dérouler le tapis rouge, et on le voit là actuellement, à Qualcomm et tous les autres
mes propres puces aussi.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais là, OpenAI dit, attends, moi j'existe Microsoft, j'existe indépendant de toi, et moi je suis avec Nvidia. Donc on voit bien que dans l'ancien monde, c'était Microsoft Intel qui dominait tout, décidément.
Décidément.
Encore trois
airbags.
Majoritairement.
Encore trois airbags là, déclenchés. Je viens de recevoir d'information, d'autoroute FM. Donc faites attention quand même.
C'est une bonne mesure d'audience en même temps.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et donc, dans ce nouveau monde, l'usage est complètement remis à plat. Et tous les grands acteurs sont en train de se faire la guerre pour prendre ce marché. C'est ça qui vient de se passer ces quelques jours.
Et je disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que tu rejoins un petit peu ma vision, c'est que Intel joue gros finalement, parce que depuis toutes ces années, ils étaient tranquillement installés avec un 80% pour eux, 20% pour AMD à peu près, je sais pas trop, mais on était dans... Tout le monde était tranquille et content. Et là, il y a Snapdragon et Qualcomm qui vont foutre la pagaille, quoi, si
après,
je puis dire.
Après Intel, ce qu'on en a parlé hier...
Et Microsoft compte les points.
C'est que Intel a quand même un avantage, c'est qu'ils sont eux-mêmes fondeurs. Donc ils peuvent un peu aller un peu plus vite. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils commencent à changer un peu le mindset de tous ces dirigeants aujourd'hui. Il faut avoir un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les plus anciens qui continuent à penser on est les meilleurs et on restera les meilleurs. Mais en tout cas, en termes de dirigeants, il faut qu'ils aient des dirigeants qui soient beaucoup plus réactifs aujourd'hui, parce que pour garder cette.
Tu as absolument raison. Sauf que le chipset qu'ils ont annoncé, leur Rolls ou leur Ferrari. Il va pas être fait chez eux.
Oui.
Il va être fait chez TSMC. Donc ils sont fondeurs, mais ils disent qu'ils sont en retard. Donc il va rattraper. Donc ils doivent.
Mais ils ont pas le premier choix. Ils sont fondeurs, mais ils ont pas le premier choix.
Ils ont pas le premier choix. Donc il faut qu'ils rattrapent en fonderie. Oui. Il faut qu'ils gardent leur part de marché. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué.
On a terminé sur le Computex. Marjorie, on a tout dit là-dessus.
Disons que cette édition, elle est fidèle à ce qu'elle annonçait. Connecter l'IA, c'est vraiment ça donner. Encore une fois, encore plus d'incarnation, encore plus de corps, encore plus de faisabilité à cette informatique en mode IA. Et par ailleurs, Taïwan est une île fantastique.
En plus, pareil, moi je rêve d'y aller. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse un Tech & Co à Taipei.
Allons-y tous ensemble.
Il y a plein de trucs passionnants en termes d'innovation technologique. Écoutez, il faut qu'on y arrive. Il y a Léa, notre productrice, qui crie « Oui !» On va y arriver, vous allez voir, on va y arriver. Juste un mot pour terminer sur le Computex, parce que tu connais bien ce salon. Ce qu'on voit là, c'est aussi une accélération des cadences de sortie des processeurs. Je ne sais pas si tu as suivi, mais Nvidia a dit maintenant, c'est plus tous les deux ans qu'on sortira de nouveaux chipsets, c'est tous les ans.
Tous les ans. Alors ça c'est aussi une vraie révolution parce que...
Ça s'emballe, ça s'accélère.
Ça c'est très compliqué à faire. On ne se rend pas compte, mais c'est comme si on disait Renault va faire des voitures en 6 mois ou en 1 an.
Oula,
c'est très compliqué. Donc je pense que ce que dit Nvidia... C'est un objectif. Je suis pas sûr qu'on y soit encore, parce que faire un chipset en 1 an, il n'y a pas que la fabrication, il y a tous les tests de sécurité, toute l'intégration hardware-software.
Tout ça avec des finesses de gravure de plus en plus basses.
Et surtout des capacités de calcul de plus en plus fortes, du software à intégrer qui est de plus en plus complexe. Il y a toute la sécurité derrière, toute la cybersécurité.
Et dernière chose aussi, même si on a un SoftBank qui est asiatique, c'est quand même la mainmise des capitaux américains sur tout cet ensemble. Parce que qui finance tout ça, c'est de l'américain à 100%, même c'est à Taïwan, même si c'est en plus
c'est les privés.
En Chine et tout ça, c'est quand même les Américains qui sont en train, qui sont derrière Nvidia, derrière AMD, derrière Intel, derrière Qualcomm, derrière.
Je vois que tous les fabricants littéralement sont à Taipei cette semaine pour Computex. Nvidia évidemment, AMD, Intel, Google, Qualcomm, Foxconn, Acer et Asus. Les Européens, ils sont où?
Eh ouais.
Pardon, il y a
les Européens.
Bah, il y a peut-être ASML qui doit avoir un stand.
SML n'est pas.
Mais c'est vraiment, pour y être allé aussi, c'est vraiment c'est un salon de l'électronique. On a les gens qui vendent du fil de cuivre, on a les gens qui vendent des capteurs nano,
des composants dans des composants.
Moi, ça m'inquiète toujours.
Non, mais tu as raison.
Pour être leader d'un secteur ou d'une industrie, que ce soit du software ou pas, on n'a pas la partie hardware assurée. On n'a pas la partie infra.
Après, ils doivent y être, Soitec, STMicro, alors ils sont peut-être perdus.
Soitec, probablement.
Oui, Soitec, probablement.
STMicro, probablement.
Mais sur des briques technologiques très particulières aussi.
Un mot, tiens, pour terminer, il nous reste 5 minutes, les amis, puisqu'on a terminé sur Computex. On s'engage l'année prochaine à y aller. Donc voilà.
C'est un engagement.
Je ne sais pas.
Attention, c'est sur caméra, on peut trop.
Non, mais en plus, Yves, c'est le guide du routard de Taipei. Voilà. Il a toutes les bonnes adresses, les bons restos, les trucs et tout. Il faut absolument qu'on y aille avec lui. On va parler d'Orange, parce que Orange a deux actualités qui sont intéressantes. Je sais pas si on va avoir le temps de commenter les deux, mais en plus avec le point de vue d'Yves qui a travaillé longtemps chez Orange, c'est le lancement d'une offre commerciale, une nouvelle offre commerciale, Fred, une offre de cybersécurité Alors, on le sait que la cybersécurité, c'est un sujet très sérieux chez Orange, mais pour le B2B. Sauf que là, cette offre, elle est pour le grand public. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va être? En gros, c'est pour 7 euros, eh bien, vous allez sécuriser votre téléphone des appels frauduleux. Hein, c'est ça, si j'ai bien compris, Yves.
Je trouve que tu résumes parce que c'est plus que ça. Ouais. Parce que sécuriser son téléphone sur les appels frauduleux, il y a une application, je pense qu'on en parlera parce que c'est assez drôle.
Si on a le temps, parce qu'il nous reste 4 minutes, ça va être chaud.
Mais non, c'est vrai. Enfin, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cybersécurité qui s'attaquait avant aux entreprises, aujourd'hui s'attaque à tout le monde. Donc personne n'est à l'abri de se faire attaquer par la cybersécurité, les AI étant... voilà. Et donc il faut protéger les gens. Et Orange sort une offre qui dit je protège tous vos devices, le PC, la tablette, vos smartphones, avec une offre à 7 euros.
C'est 10 devices par foyer, pour être tout à fait...
Voilà, 10 devices par foyer.
On est tranquille.
Et dans ce device-là, il y a l'application, la fameuse application Orange Téléphone, okay, qui a une histoire un petit peu cocasse, puisque tu parlais
t'étais à la tête de cette équipe-là, voilà, à l'époque, parce qu'elle est pas.
J'étais sponsor de cette chose-là pour une raison un peu encore que un peu bizarre, mais non. Mais ce qui est rigolo, et je pense que c'est ça qui est marrant dans la vie de la tech, c'est que des fois on fait quelque chose avec un objectif. Et puis il se passe autre chose.
Mais, alors, mais on le découvre 10 ans après. Je crois qu'on a le temps. Tu peux nous le dire, ça. Il n'y a pas, oui, de secret.
Non.
On est en quelle année, quoi.
Je sais pas, on doit être à 2015, 2016, quelque chose comme ça.
Les opérateurs voient arriver la voix sur IP comme un ennemi.
Absolument.
Bien évidemment, à l'époque.
Surtout Orange. Surtout France Télécom de l'époque. Hein.
Voilà. C'était la manière la plus simple de téléphoner, hein. Passer par la ligne téléphonique. Et là, la voix sur IP arrive et ça fout la pagaille chez vous. Tout le monde commence à paniquer. War Room chez Orange.
Voilà. Non, en fait, pourquoi les gens paniquent? Parce que le bouton vert, ce qu'on appelle le bouton vert, quand on appuyait sur le bouton vert,
qui permet de décrocher, d'appeler,
ont tombé automatiquement sur les services, sur les tuyaux, j'allais dire, d'Orange. Et donc, on facturait à l'heure. On avait 500 SMS et 3 heures de télécommunication. Alors, en Europe, ça devenait un peu plus...
Oui, c'était plus des forfaits.
Mais en Afrique, mais dans un certain nombre de pays là, c'était encore comme ça. Donc, c'était une grosse part des revenus...
Ça, c'était la grosse vache à lait
des opérateurs de télécom, donc d'Orange, qui passaient par là. Et là, tout d'un coup... des gens comme Google avec Android disent, mais attendez, mais aujourd'hui on peut faire gratuitement en passant par un autre réseau qui est le réseau de l'internet, le réseau IP. Mm-hmm. Et donc ce bouton vert, on va quelque part l'enlever ou lui donner la possibilité de choisir soit vous passez par l'IP, soit vous passez par le réseau des opérateurs. Ah, d'ailleurs, les opérateurs,
dans
le bas de combat, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Et oui, parce que c'était évidemment tous les forfaits qui disparaissaient là d'un coup.
C'était un gros problème de revenus. Bon, alors, comme tu dis, War Room, réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, plan A, c'est on fait du lobbying et on se réunit tous les opérateurs pour casser la figure à ces abrutis d'Android qui comprennent rien. Mmh. Okay, et donc, Yves, tu sautes dans un avion, tu fais le tour des opérateurs, vous faites un groupement et vous allez voir Android pour dire tu arrêtes ces bêtises. Bon, ok. Donc ça, c'est le plan stratégique numéro 1, etc. Donc je fais ma valise comme d'habitude. Si, ça a à peu près marché, mais on a gagné du temps. Ouais. Dire ça comme ça, on a gagné du temps.
Mais alors parce qu'il faut qu'on se dépêche.
Plan B, c'est si ça doit être de la voix sur IP et une application, faisons notre application nous-mêmes et mettons nous-mêmes, allons voir Samsung, allons voir tous les gens pour leur dire mettez mon application puisque on est plus sûr de l'avoir, donc on va Et donc il faut faire cette application. Donc on fait une application, puis à un moment donné, dans une réunion, il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi ils vont prendre la nôtre et pas celle d'une autre? Ah, je sais pas, parce que c'est la nôtre. C'est peut-être pas suffisant. Parce qu'elle est Orange, c'est peut-être pas suffisant. Il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit, vous savez quoi? On a une base de numéros de téléphone. On connaît tous les numéros de téléphone de spam, puisque c'est nous qui les vendons. C'est les opérateurs qui les vendent et la base, elle est commune. Si on donne accès à cette application, on saura si c'est un vrai coup de fil ou un coup de fil publicitaire. Donc si on donne ça aux gens, ils vont peut-être prendre l'application parce qu'ils ont ça en option gratos.
Voilà, c'était le petit truc bonus en plus.
Voilà.
Quoi.
Donc, et puis en plus, on va le faire communautaire, parce que comme on n'a pas tout, on va le faire communautaire, c'est sympa, c'est cool.
Et pour résumer,
c'est comme ça qu'on arrive à Cybersécure, en fait, aujourd'hui.
Et c'est comme ça qu'on arrive à Cybersécure. C'est donc incroyable. D'un problème qui n'a rien à voir avec ça,
c'est génial,
qui est comment je me bats contre Google qui veut enlever mes revenus du ce qu'on appelait la... Ce qu'on qu'on a appelé en interne la guerre du bouton vert.
On arrive
à cybersécure.
Voilà, je
parce
lance
qu'il y a un gars sur le fin fond d'une salle qui a levé le doigt et qui dit moi j'ai peut-être cette idée-là, ça pourrait peut-être aider. Oh bah oui, ça pourrait
du
aider.
Coup, allez, ça, hop, c'est une première bonne leçon de comment est-ce qu'on arrive à cybersécure aujourd'hui. La deuxième, c'est pourquoi lutter contre les usages quand ils essaient de s'installer, puisque 10 ans plus tard, a priori, j'ai pas besoin de Orange téléphone, je vais directement sur WhatsApp.
Et ben voilà, c'est ça.
Et ben voilà.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marjorie.
Bah de rien, je vous en prie.
Le plateau de Tech & Co à très vite. Marjorie, journaliste, Yves Maître, operating partner, Jolt Capital et consultant, ancien PDG de HTC. Merci Fred. Fred Simotel, qu'on retrouve demain, qui sera la présentation de Tech & Co demain, bien évidemment. Et vous restez avec nous, on a encore une demi-heure à passer ensemble avec plein de choses passionnantes qui arrivent. Comment Air France embrasse l'intelligence artificielle générative? On va en parler dans un instant avec mon invité, porte-parole d'Air France justement sur ces sujets, l'IA et la data. Et puis juste après, autre belle boîte, c'est L'Oréal qui invente, écoutez bien, et ça a été présenté à Vivatech, c'est passionnant, une peau qui est imprimée en 3D pour faciliter en fait les tests de produits. Tout ça à découvrir dans quelques instants, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm, bien sûr, qui me rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.